Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Barbès et plus précisément vous êtes à l'écoute de l'émission Super Citoyen, le pouvoir est entre tes mains. Mais qu'est-ce qu'un citoyen? Pour répondre à cette question, je vais me tourner vers Léa qui est tout simplement notre maîtresse capella maison.
Une fois n'est pas coutume, nous allons parler cinéma aujourd'hui pour aborder cette définition. En 1955, sortait un film d'animation intitulé « La Belle et le Clochard », devenu un classique depuis, réalisé par Clyde Geronimi, Wilfrid Jackson et Hamilton Lusk. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on y retrouve énoncé, par le personnage du clochard, les droits du citoyen chien. Les voici, les droits du citoyen chien. « Regarde en bas, » dit le clochard à la belle, de très jolies maisons avec des jardins entourés de clôtures. C'est la vie en laisse. Regarde plus loin. Il existe un autre monde, sans palissade, sans clôture, un monde où deux chiens pourraient s'aimer, être heureux. Le monde est à nous. Il suffit de le prendre. Étrangement, cette réflexion portée par le clochard fait grandement résonner la notion de citoyen puisque celle-ci nous rattache à la notion de cité, au fait de vivre dans une cité, au sein d'un État dont les règles doivent être respectées et desquelles découlent des devoirs et des droits. Ce que le clochard décrit en réalité, ce ne sont pas les droits du citoyen, mais plutôt ceux de quelqu'un qui veut s'extraire de la cité, ne plus dépendre d'un État pour profiter d'un monde sans palissade, sans clôture, comme il le dit. Bref, d'un monde qui n'existe pas tout à fait. Ce monde, vaguement évoqué, nous renvoie vers le concept d'anarchie, mais non pas celui décrit communément comme un état de trouble, de désordre dû à l'absence d'autorité politique et à la carence des lois, selon la définition du Larousse en ligne, mais plutôt comme une société mettant en avant la liberté au même titre que l'égalité, c'est-à-dire ne permettant pas à des dominants, l'humain en l'occurrence, d'asservir des dominés, la race canine en ce cas précis. Bref, un monde dans lequel le vivant respecte le vivant. Quoi ? Grosse question ! Les studios Disney auraient-ils produit une œuvre révolutionnaire ? C'est malheureusement sans compter sur le fait qu'à la fin du film, souvenez-vous, le clochard accepte finalement de vivre avec la belle dans une très jolie maison avec un jardin entouré de clôtures. La vie en laisse, quoi. La laisse n'étant peut-être rien de plus que la métaphore du confort, mais dit-on tous là-dessus.
Et nous vous proposons de méditer là-dessus avec un super citoyen qui est disquaire, qui est curieux de tout, qui est ouvert à toutes et à tous, et qui est aussi le créateur ou le co-créateur de Radio Barbès. Il s'agit de Joe. Alors Joe, comme tu le sais, nous sommes évidemment sur la radio que tu as créée, une radio locale bien ancrée dans le 18e arrondissement. Du coup, je vais te demander de bien vouloir te présenter et surtout de nous indiquer quelle est la nature de ta relation avec le 18e. Tiens, pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que tu as fini par créer Radio Barbès dans le 18e ?
Tout d'abord, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Parce qu'on ne sait pas trop avec Internet si on est le matin ou le jour. On ne sait pas à quelle heure les gens nous écoutent. Alors moi, je me présente, je m'appelle Joe. J'ai une quarantaine d'années. Je viens d'où ? J'ai des origines antillaises. Et j'ai grandi en banlieue parisienne, dans le 93. Aulnay-sous-Bois, Drancy, voilà, dans ces coins-là. Donc un banlieusard en fait, voilà, qui montait de temps en temps à Paris, qui a vécu des très belles années en adolescence et en jeunesse, à s'amuser, à jouer dans les champs, à faire des cabanes, faire du sport aussi, voilà, j'écoutais beaucoup de musique aussi beaucoup de musique à l'âge de 15-16 ans, ça a commencé à peu près. Vraiment, j'ai dû acheter mon premier disque à l'âge de 14 ans parce que mes parents, en fait, ils avaient des vinyles. Et j'ai toujours vu des vinyles quand j'étais gamin. Et puis un jour, je me suis mis à acheter des disques vinyles. Et plus tard, j'ai ouvert un magasin de disques. Mais ici, alors, dans le quartier.
Voilà, qu'est-ce qui te relie au 18e arrondissement ?
Alors, la première chose qui me relie, c'est qu'en fait, j'y ai habité pendant environ 8-9 ans. Je crois que je suis arrivé à l'âge de 29 ans. Voilà, 29 ans. Alors, pourquoi je donne l'âge de 29 ans ? Parce que je ne suis pas arrivé à Paris à 20 ans. C'est pas pareil d'arriver à Paris à 20 ans que d'y arriver quasiment à 30 ans. On va dire qu'avant, on a déjà eu nos petites aventures.
Les expériences.
Et donc, voilà, donc je suis arrivé à 29 ans à Paris. Puis je suis arrivé dans le quartier de la Goutte d'Or, pas très loin de l'église Saint-Bernard. J'ai habité 3 ans rue Cavé et après 5 ou 6 ans rue Mira, la fameuse rue Mira. Donc ça, c'est la première chose qui me lie. Et j'ai découvert en fait Paris. Souvent, je dis aux gens que j'ai découvert plus la Goutte d'Or que Paris. Alors, c'est la Goutte d'Or, c'est dans Paris, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, sur les 8 années quasiment où j'ai vécu ici, en fait, j'ai très peu été dans d'autres arrondissements. Voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce quartier, c'est bon, déjà l'animation. Chose aussi, c'est que ça m'a rappelé aussi la banlieue dans laquelle j'ai grandi, parce qu'il y a beaucoup de gens de communautés diverses et variées, les mamas africaines. Puis toutes les communautés maghrébines. Donc moi j'ai grandi là-dedans, dans la cité où j'ai grandi, et ben, mes potes c'était des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Congolais, des Polonais, des Juifs, des Portugais, voilà, c'était un melting pot. Et en arrivant à la Goutte d'Or, j'ai un peu retrouvé cette ambiance.
Voilà. Mais alors quand tu dis que c'est pas la même chose d'arriver dans Paris à 20 ans ou d'y arriver à 29 ans, qu'est-ce que tu entends exactement par là ? Est-ce que tu peux développer ?
Bah, j'entends que si j'étais arrivé à Paris à l'âge de 20 ans, je pense que je me serais brûlé deux fois plus vite, pour faire clair.
Brûlé deux fois plus vite ?
Quand je dis brûlé, ça veut dire que moi j'aime la vie, je suis quelqu'un qui est assez ouvert, assez dynamique, qui aime rencontrer les gens et voilà, j'aime faire des expériences. Donc à 20 ans, ouais, je pense que j'aurais fait... Vu que cette ville, elle propose tellement de choses, bah, Paris a tout en fait. Le bien comme en mal. Donc les sorties, les bars, les soirées, les filles... Voilà, je pense que si j'arrivais à 20 ans, je pense que j'aurais consommé en 20 fois plus encore. Voilà, c'est surtout par rapport à ça.
Donc heureusement que tu y es arrivé un petit peu plus tard.
Heureusement. Et quelque part, c'est peut-être pas un hasard finalement.
Eh bien écoute, tant mieux pour nous, comme ça on peut profiter de ta présence jusqu'au bout. Et donc rapidement, j'ai précisé que tu étais curieux de tout et ouvert à toutes et à tous, notamment parce que tu as organisé des soirées musique et palabre. C'est-à-dire que dans le quartier, donc avant même d'avoir ouvert ta boutique de disques, tu as organisé ces soirées, musique et palabres. Le principe, c'était de mélanger, j'ai l'impression, tes deux passions, qui sont la musique, comme tu nous l'as un petit peu présenté juste avant, et le questionnement sur la société, le questionnement sur autrui. Est-ce que tu peux donc nous expliquer un petit peu le principe de ces soirées musique et palabres et pourquoi tu as fait ça?
Alors on va commencer par le pourquoi, comment ça a démarré. Alors c'est tout simple, quand je suis arrivé à Paris, je suis arrivé à Paris aussi parce que j'y travaillais. Donc je vendais des disques concrètement. Et en fait il s'est passé quelque chose, j'ai eu un déclic, je ne peux pas appeler ça un déclic. C'est-à-dire que comme j'ai toujours été révolté, du moins dès qu'il y avait des... En fait l'injustice me rend malade, si je peux parler comme ça. Et en fait... un jour, j'ai eu un déclic, parce qu'à Paris, en fait, il faut dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent un peu partout. Parce qu'on dit Paris, c'est pas forcément des Parisiens qu'on rencontre. Moi-même, j'étais pas Parisien, c'est mon lieu d'art. Et beaucoup de gens montent sur Paris pour leur carrière. Voilà, parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a machin. Et donc, du coup, on rencontre plein de gens qui sont aussi là, entre guillemets, pour les affaires. Et moi, à un moment donné, ça commençait à me fatiguer un peu, cette vie, un peu, on se voit, mais en fait, par intérêt... Parce qu'il faut être avec machin, qui connaît machin, par rapport à alors, chacun ses affaires, ses business. Et moi, c'est un truc qui m'avait frappé. Pas tout de suite, hein, mais au bout de 3-4 ans à Paris, j'ai fait, tiens, c'est bizarre quand même. J'ai l'impression un peu de vivre des relations fausses, d'une certaine façon. Donc du coup, j'ai décidé un jour de m'ouvrir et j'avais lu un bouquin, parce que je lis beaucoup de livres. J'avais lu un bouquin qui s'appelle La fabrique des derniers hommes. Et avant, j'ai quand même eu un déclic, c'est que j'ai lu le bouquin de Jean Jaurès, qui s'appelle Le Grand Jaurès. Et ça a été un gros déclic pour moi. En découvrant un peu ce personnage. Et puis après, j'ai découvert un bouquin de Alain Perfit qui s'appelle Le Mal français, qui est très intéressant, où c'est un gars qui fait une thèse sur, je crois que c'est un homme politique de droite, on m'a dit, qui a fait une thèse sur qu'est-ce qu'un français. Il cherchait à savoir quelle était la substance d'un français. Très intéressant. Et ensuite, je suis tombé sur un autre bouquin qui s'appelle La fabrique des derniers hommes. Je crois que t'as un mec qui s'appelle Orléans Borland, qui est très intéressant, où il parle de communauté et société, les gens qui vivent en communauté et société, la différence entre ce que c'est qu'une communauté et une société, où là j'ai commencé à toucher un peu à la sociologie allemande, bref. Pourquoi je parle de tout ça ? Parce que ça a été tout ce background, tous ces bouquins que j'ai lus, qui m'ont à un moment donné fait le déclic, en disant bon, maintenant c'est bon, t'as lu, tu t'es intéressé à certaines choses, maintenant, allez, on va agir, on va passer à l'action. qu'est-ce que je pourrais faire pour, entre guillemets, que les relations soient moins fausses, un peu plus vraies, un peu plus chaleureuses, d'une certaine façon. Et à partir de là, j'ai commencé à m'activer. Bah, s'activer, c'est quoi ? C'est savoir un peu ce qui se passe dans le quartier, en fait. Donc du coup, je me suis approché des associations. Voilà, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs actions. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passe en mairie, parce qu'il y a des réunions qui sont ouvertes aux habitants, voilà, parce que moi j'étais un simple habitant du quartier, voir un peu ce qui s'y fait pour avoir, on va dire, un monde meilleur entre guillemets, mais pour avoir des, je sais pas, vivre mieux le quartier d'une certaine façon. Après, c'est ma vision à moi, elle n'est pas partagée par tous. Et donc, du coup, ensuite, je me suis approché d'un groupe politique. Et je crois que c'était Europe Écologie des Verts, le groupe local du quartier, qui m'a donné une petite expérience dans comment fonctionne d'une certaine façon un groupe local d'un parti politique. J'aurais pu choisir d'autres j'aurais pu aller chez les socialistes, les communistes, ou bref. Mais j'ai choisi les Verts parce que j'ai une petite fibre écolo aussi. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait toutes ces actions, aller proche des politiques et des associations, j'ai assisté à des réunions, je me suis dit, ben, qu'est-ce que moi je pourrais faire comme action dans le quartier pour faire avancer les choses, entre guillemets, le mieux vivre ensemble, mieux se connaître, apprendre à mieux se connaître. Et on avait décidé, avec des personnes du quartier que je connais, certains musiciens, on avait décidé d'organiser des débats d'habitants. En fait, l'idée, c'était que les gens du quartier puissent libérer la parole. Parce que libérer la parole... Si vous voulez, quand j'étais dans les réunions, on va dire en mairie, tout ça, ces choses-là, ce que je voyais, c'est qu'il y avait des réunions, par exemple, sur d'informations, sur, je sais pas, il y avait des trucs sur les commerces, les réunions. Je me rappelle d'une réunion, c'était sur les ondes électromagnétiques, ou des réunions sur la RATP, sur les travaux, les futurs travaux, bref. Et quand j'allais à ces réunions, je me rendais compte qu'il y avait très peu de gens du quartier, très peu de gens. Et je voyais souvent les mêmes. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit dans la politique et qui parlent au nom des gens du quartier, les gens du quartier, du moins. Quand je dis les gens du quartier, je ne parle pas le quartier au point de vue péjoratif, comme si c'était un quartier de banlieue. Quand je dis le quartier, c'est vraiment, on va dire, plutôt, je vais plutôt employer le terme de village. Voilà. On parle souvent des gens du village, mais on les voit peu. On ne les voit jamais, très peu, ou sinon on voit toujours les mêmes. Et souvent, quand on se rend compte que les gens qu'on voit dans ces réunions, ce sont souvent des personnes qui sont dans des associations et qui s'activent, qui font des choses. Et moi, il y a un truc qui me frustrait vraiment beaucoup dans ces réunions, c'est qu'à chaque fois qu'on parlait des gens du village, mais en fait, on voyait très peu ces gens du village. Et donc, moi, j'ai décidé d'organiser un débat de quartier où justement, où les gens du village qui ne se déplacent pas pour aller à ces réunions puissent en parler, ne serait-ce qu'en bas de chez eux. Et voilà comment est venue l'idée de faire des débats de quartier un peu partout. Alors le concept, c'était, on avait choisi des bars, plusieurs bars dans le quartier. Alors je crois qu'il y avait le bar Le Paradis, il y avait le bar l'Happy Bar, il y avait, je crois qu'il y avait le Melting Pot, il y avait, je suis pas sûr, je crois qu'il n'existait pas encore ce bar-là. Bon, on avait choisi plusieurs bars, et ce qui était marrant, c'est qu'à chaque fois, on a vu un peu la communauté kabyle aussi du quartier, parce que c'est beaucoup de kabyles aussi qui tiennent les bars, ça c'est marrant. Et donc du coup on a organisé des débats. Alors on a appelé ça Musique est palabre. Tu disais tout à l'heure musique est palabre. Pourquoi musique est palabre? Parce que je voulais pas que dans le mot dans le débat il y ait le mot débat et apéro. Parce que avant musique est palabre, j'avais déjà fait quelques tests. On avait appelé ça apéro débat. Et le problème, c'est un truc tout bête, c'est quand vous voulez faire parler les gens, faire un débat, je sais pas, un café philo ou quelque chose comme ça, il y a un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on fait ça souvent dans des bars. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens du village, donc les villageois, qui ne vont jamais dans les bars. Et donc, pour faire parler des gens du village, si vous organisez un débat dans un bar, eh ben, vous êtes sûr déjà de faire filtrer. Et ce sont les gens qui ont l'habitude, dans leur temps de loisir, d'aller dans les bars, que vous allez avoir. Et forcément, vous allez avoir qu'une partie des gens du village. Et très souvent, vous allez avoir la partie quand même des gens qui sont un peu plus... alors qu'ils ont peut-être le capital social pour pouvoir discuter, qu'ils ont peut-être des moyens financiers, ou des fois ça peut être juste un logement, qu'ils ont un héritage, quelque chose comme ça. Donc du coup, vous filtrez. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir les gens d'en bas aussi. Les gens qu'on voit peu, les gens qui n'ont pas le temps pour le travail, parce que culturellement, non, c'est pas leur truc, c'est pas dans leurs habitus. Donc voilà.
J'aime beaucoup l'utilisation du terme village, parce que ça casse un petit peu le côté inaccessible qui est de la dimension parisienne. Mmh. Et je trouve que c'est une très bonne piste, une très bonne idée d'utiliser ce terme peut-être plutôt que quartier. Mais j'ai l'impression que tu nous parles un petit peu de démocratie participative, Joe, avec ces projets-là.
Alors, démocratie. Alors, moi, j'ai un problème avec le mot démocratie. J'ai toujours eu un problème avec ce mot-là, parce que Alors, je suis quelqu'un d'assez. Ouais, je suis un peu autodidacte. J'aime bien m'intéresser aux choses. Et quand je parlais de ce déclic tout à l'heure, dans ce déclic, il y a une chose qui m'est aussi arrivée. Je me rappelle, c'était un truc qui m'avait frappé. C'était Manuel Valls à l'époque, je crois que c'était en 2014 ou 2013, qui avait dit une phrase, et ça me résonne encore dans la tête, qui avait dit, ce n'est pas ma victoire, c'est la victoire de la République. Ça m'avait choqué. C'est un truc qui m'avait marqué, quoi. Et je me rappelle que Valls, c'était l'époque, si je me trompe pas, des 49-3, ou je sais plus si c'était. Ça enchaîne. Il était assez ferme, il me semble. Hein. Lui, je crois que son idole, c'était Clémenceau. Donc, il s'en cachait pas. Et bref, il avait sorti ça et ça avait résonné en moi. Je fais, c'est pas sa victoire, c'est la victoire de la République. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'est, mais qu'est-ce que c'est qu'une République? Eh ouais. Ça, c'est la question. Aux auditrices et aux éditeurs qui nous écoutent, intéressez-vous à savoir ce que c'est qu'une république. Maintenant, on a Internet, ok? Donc, vous pouvez plus faire ah, je savais pas, et vous allez voir ce que c'est qu'une république. Et pour les gens qui sont plus curieux comme moi, quand je fais une recherche, je m'arrête pas à la première que je trouve. Au contraire, j'aime bien en mater 5, 6, 10, voire peut-être 15, et après aller sur des réseaux sociaux. On va peut-être pas les citer, mais je vais les citer quand même comme YouTube. Et je sais que ça va choquer certains et certaines. Mais vous tapez République, et là vous allez avoir une centaine de vidéos de profs ou quelqu'un de quelconque qui va vous parler de la République. Bon, pourquoi je disais ça? Parce que tu as dit démocratie. Alors démocratie, moi j'étais parti chercher justement le terme de démocratie, et ça s'est passé, je crois, dans la Grèce antique, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises, hein, ou bref. Et la démocratie est née avec l'esclavage. Aïe, je me suis arrêté là. J'ai fait, ah bon? Une démocratie avec l'esclavage. Et là, depuis ce jour-là, dès qu'on me dit démocratie, derrière tout de suite, je vois l'esclavage. C'est juste pour vous dire, voilà, c'est juste en cherchant la définition du mot. Le terme démocratie, j'ai un peu de mal. Après, on peut l'appeler démocratie. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de libérer la parole. C'est que chacun puisse parler, dire ce qu'il pense. Moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Parce que je me suis rendu compte, parce que aussi à cette époque où on avait monté ces débats, c'était pendant les. Je crois qu'il y avait eu lieu les attentats. Charlie, ça avait enchaîné. On a eu toute une série pendant 2-3 ans.
En 2015.
Voilà, c'était cette période-là. Et du coup, il était quand même urgent qu'on parle, qu'on dise des choses, parce que moi, j'entendais des choses. Et je me suis dit, bon, là, il serait peut-être temps qu'on commence à se confronter, qu'on commence à se parler, et d'où l'idée de sortir des débats, parce que voilà, j'entendais des choses, je sentais, je voyais des réactions. Bon, c'était cette époque aussi, hein, faut dire que ça m'a traqué. Hein, c'est vrai qu'ils ont fait mal, hein, avec les attentats. Hein, c'est fou furieux.
Et est-ce que tu as vu du résultat? Est-ce que tu es satisfait justement d'avoir organisé ça? Est-ce que tu t'es dit, bon, j'ai quand même réussi à contribuer un petit peu à la libération de la parole? Dans le village.
Alors, dans ce village, ça a commencé. On va dire que, pour répondre à ta question, non, je suis pas satisfait. En fait, c'est même pas la question, c'est même pas je suis pas satisfait, c'est qu'en fait, dans mon esprit à moi, j'ai démarré quelque chose qui est en train de maturer, qui n'a pas fini encore. On a encore des choses, il y a encore des projets qui vont arriver. Bon, là, on a le Covid qui nous met tous en pause pour le moment, mais je prépare d'autres choses, voilà, qui vont, à mon avis, voilà, toujours dans le même esprit. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que pendant que je faisais les débats, j'organisais aussi, et ça a duré un an, un troc. Donc une fois par mois, on faisait un troc dans le quartier. Donc je ramenais les vinyles, les platines, je faisais de la musique. Et les gens venaient échanger des choses. C'était toujours pareil, c'est toujours dans le même esprit. C'est-à-dire se faire rencontrer des gens du quartier pour échanger. Alors ils ont trouvé ça sympa qu'on puisse troquer une lampe contre, je sais pas, un bouquin ou des choses comme ça. Mais l'idée, c'était surtout que les gens puissent se rencontrer en dehors de lieux dits balisés. Pour moi, les lieux balisés, c'est quand on sort du métro, on sort de chez soi, on fait le chemin pour aller au métro pour aller travailler, ou on passe à la boulangerie, ou on va à la poste, ou il y a le parc, le square. Donc l'idée, c'était d'ouvrir un autre espace dont les gens n'ont pas forcément l'habitude, où les gens peuvent se croiser en dehors de ces lieux de consommation où il y a une valeur d'échange. Bref, voilà. Donc c'est des petites choses qui ont l'air toutes bêtes, mais comme je disais tout à l'heure, je lis beaucoup de bouquins et j'essaie d'appliquer les choses simplement. Et j'espère que pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, que vous allez, si vous pouvez me copier, allez-y. S'il vous plaît, allez-y. Et si vous pouvez faire ça dans tous vos villages, parce qu'il y en a des villages à Paris, n'hésitez pas.
Donc le but est de débaliser le village, de casser un petit
Ouais,
peu les balises existantes qui
d'une certaine
enferment
façon, ouais.
chaque habitant de ce village dans son quotidien et dans son confort. C'est marrant parce que, mine de rien, quand tu as parlé de Paris, Tu nous as parlé quand même d'un ressenti assez négatif, d'une expérience assez négative sur deux points. Donc, tu as parlé de brûler la vie. Heureusement que tu n'y es pas arrivé à 20 ans à Paris.
Ouais.
Parce que tu aurais eu peur de brûler la vie.
Peur, et je puis... sais pas, mais je l'aurais brûlé, c'est sûr.
Et puis, tu dénonces aussi des relations faussées. Donc, en réalité, tu as un petit peu un ressenti négatif par rapport à ce village, non ?
Non. C'est... Disons que c'est pas tout le monde. Heureusement qu'il y a des gens bien. Il y a encore des gens que je côtoie, que voilà, il y a pas de souci. Mais disons que ouais, il y a eu des expériences. Voilà. Après, c'est rien d'exceptionnel hein, finalement. Voilà, quand vous êtes à Paris, vous êtes dans les bars, vous rencontrez plein de monde. Et quand vous êtes quelqu'un qui sort la nuit, forcément, dans les gens que vous allez rencontrer la nuit, comme dit le dicton, la nuit tous les chats sont gris. Donc forcément, vous allez rencontrer des gens bizarres. Bizarres, c'est pervers narcissique, mythomane. Voilà, il y a plusieurs profils. Et effectivement, bah, moi qui aimais bien ce monde-là, bah, finalement, aujourd'hui, voilà, ça ne me dit plus rien. Quoi. Je ne sors plus aujourd'hui, quasiment. Bon, là, tu me dirais, il y a le Covid.
Plus personne ne sort, mais, presque.
Mais je ne sors plus. Par contre, je voyage énormément. Je voyage énormément. La musique, c'est ce qui me fait voyager.
Et alors justement, cette musique t'a fait aussi ouvrir une boutique dans le 18e, sous la Bleuta, une disquerie, j'ai envie de dire, un disquaire. Qu'est-ce qui te lie comme ça à la musique ? Parce qu'on sent que t'es passionné, donc c'est une très belle boutique dans laquelle on reçoit de très bons conseils. Tu ne vends pas que des disques vinyles, donc tout est d'occasion. Tu vends aussi des disques compacts, tu vends des cassettes audio, tu vends des livres. Qu'est-ce qui a forgé cette passion dans la musique ? Qu'est-ce que tu trouves dans cette musique ?
Ben, ce que je trouve dans la musique, c'est les couleurs. Moi, j'aime la diversité. Donc déjà, la musique, il y a tout ce qu'il faut. Après, si on peut parler en termes philosophiques, peut-être plus médicinal, pour moi, c'est ce qui me permet qui me maintient en vie aujourd'hui. On doit tous trouver des... Je pense que chacun et chacune, on doit tous trouver des... Je sais pas, des sources d'énergie, des points qui nous permettent d'avancer dans la vie. Après, chacun son truc. Hein. Il y en a, je sais pas, c'est le sport, il y en a, c'est la bouffe, il y en a, voilà, chacun son truc. Moi, c'est la musique. C'est la musique qui me permet vraiment d'avancer. Et c'est elle qui m'a tout donné, c'est elle qui m'a tout permis de faire tout ce que j'ai fait quasiment aujourd'hui. Et quand je regarde derrière moi, bah ouais, la musique, j'ai commencé par être disque jockey. Et puis après, voilà, on a organisé des soirées, des fêtes, on a vendu des disques et puis un magasin. Je voulais vraiment ouvrir que le magasin se trouve dans le quartier. À la base, j'aurais voulu que la boutique se trouve rue Mira. Un, parce que j'y habitais, et deux, parce que la rue Mira, elle a une histoire de dingue. Elle a une histoire de dingue. Donc du coup, bon, ça aurait été bien pour marquer le coup, mais bon, c'est ainsi. Là, je suis rue Marcadet dans le quartier, on reste dans la Goutte d'Or. Ça me va, d'ailleurs, j'apprends beaucoup de choses ici. Mais pour revenir sur la musique, comment vous dire, pour moi, c'était une finalité d'ouvrir ce magasin. Quand j'ai commencé à acheter mon premier disque à 14 ans, Curtis Mayfield, voilà, je crois que ça a commencé là. Et puis après, bon, j'ai oublié de dire que j'étais à la fac aussi. J'étais à l'université, j'ai tout laissé tomber pour la musique. Donc arrivé en maîtrice, pas en maîtrise, j'étais en, je crois, c'est licence avant la maîtrise. Et j'ai tout laissé tomber pour la musique quand j'ai vu que je m'apprêtais à devenir prof d'instituteur. Voilà. Enfin, prof des écoles, comme on dit. Et finalement, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, si je dois vivre, il vaut mieux que je fasse quelque chose dont j'ai vraiment envie, quoi. Et du coup, la musique.
Et ta boutique est assez spéciale parce que justement, on sent... Tu n'es pas devenu instituteur, mais on sent que tu as envie de transmettre des choses, d'échanger beaucoup. Et donc, tu conseilles volontiers, évidemment, les personnes qui viennent te visiter. Et tu as des conseils, j'ai envie de dire, très engagés. En musique, je me souviens aussi que moi je t'ai pris une autobiographie de Malcolm X, voilà, en bouquin. Donc,
en anglais ou en français ?
En anglais.
Ouais,
elle était passionnante à lire. Donc on retrouve ce caractère curieux de tout, ouvert à toutes et à tous dans ta boutique. Eh bien écoute, Joe, je pense que c'est le temps de faire une petite pause musicale, justement. Et en l'occurrence, nous vous proposons, chers auditeurs, chères auditrices, de découvrir ou redécouvrir une chanson de Mano Solo qu'il interprète avec les Frères Misère. Il s'agit de La Révolution.
En rouge comme un drapeau, où qu'elle tape la chute des pavés. La marée noire l'a emportée. À moins que ce soit la marée brune, j'ose à peine y croire. Y'a plus de fâchons pour avoir l'espoir. La révolution, c'est plus comme avant. Avant, t'avais le noir et le blanc. Mais maintenant, t'as plus du gris partout. On n'a pas vraiment avancé beaucoup. Et tu sais, moi, je les envie un peu. Tous ces mecs qui foutent le feu dans leur banlieue. Sans pas appris à réfléchir, juste appris à vomir. Et vomir, ça fait du bien.
Quand t'attends vraiment plus rien.
Quand t'attends vraiment plus rien. Qui t'attend. La révolution, c'est plus comme avant. Avant, t'avais le noir et le blanc. Et maintenant, t'as plus du gris partout. On n'a pas vraiment avancé beaucoup.
Nous venons d'entendre, vous venez d'entendre La Révolution de Mano Solo, interprétée avec les Frères Misère. Et on a trouvé avec Léa que c'était une chanson qui te correspondait plutôt pas mal. Il y a des paroles que je trouve absolument magnifiques dans cette chanson, que je vais me permettre de citer même si on vient de les entendre. Donc je cite « Tous ces mecs qui foutent le feu dans leur banlieue n'ont pas appris à réfléchir, ils ont juste appris à vomir, et vomir ça fait du bien quand t'attends vraiment plus rien et que c'est le rien qui t'attend. » Et je pense que là-dedans, il y a le syndrome du manque de dialogue, du manque d'écoute. Et donc, avec tes soirées musique et palabres, pour moi, tu as essayé, à ton échelle, Joe, de contribuer à construire une société basée un petit peu plus sur l'écoute et le dialogue.
Parce qu'elles se rencontrent. Si elles ne se rencontrent pas, il n'y a pas dialogue, il n'y a pas écoute.
Tout à fait, parce que les gens du village se rencontrent entre eux. Et cette révolution, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la révolution ?
La révolution, alors, c'est un peu comme avec la République.
Et la démocratie.
Et la démocratie. Non, là, je rigole, mais la révolution, alors, c'est très intéressant. Alors, à l'école, on nous a appris la Révolution française. Moi, je me rappelle, j'étais en primaire quand il y a eu les 150 ans, je crois, en 1989, je crois. On avait fait une grosse fête. Du moins, tu sais, la fête de fin d'année dans les écoles, et c'était sur la Révolution française.
Les donc, 200 ans, ouais, en 1989.
C'était en 89, ouais. Je crois. Et du coup, alors moi, je faisais partie du clergé, j'avais la soutane et le truc. Je ne sais même pas pourquoi ils m'ont foutu. Bon, bref, passons. Et donc, chacun jouait. Et il y a un truc qui me reviendra toujours, c'est on a fait la prise de la Bastille. Donc, on avait fait, tu sais, en carton dessiné, en peinture, des briques qu'on avait montées comme une sorte de domino. Et à la fin, on fait, ouais, la prise de la Bastille. Nous, tous les enfants, on a tous couru, on a foutu des coups de pompe dans le mur, tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué. Et après, je me suis intéressé à la révolution.
C'est quoi la révolution ? C'est foutre en l'air des édifices ? C'est casser du mur ?
Alors, pour la Bastille, alors j'ai appris qu'apparemment, il n'y avait personne dans la Bastille. Il paraît qu'il y avait 2-3 prisonniers à peine. Et qu'il y avait un mec qui était à la grille, je ne sais plus comment il s'appelait, ce bonhomme, ou le mec qui était derrière. Ils l'ont dit, ils ont un peu négocié. Il les a laissés ouverts en disant, ouais, moi, je suis avec vous. Le gars, il a ouvert. Il paraît qu'il s'est fait décapiter avec un canif. Ils l'ont coupé la tête. Bref. Donc la Révolution française, pourquoi je parle de ça ? C'est pas anodin. C'est parce que voilà, plus tard j'ai appris ce que c'était vraiment la Révolution française. Moi j'ai toujours cru que c'était les pauvres voilà, qui foutaient dehors les riches, mais finalement on apprend qu'en fait que c'est la bourgeoisie qui arrivait, qui ne pouvait qu'arriver, et qui supplantait les propriétaires terriens, les notables, et bon bref, ceux qui avaient le pouvoir qui venait de Dieu, quoi, le roi et toute sa clique. Et ça m'a marqué beaucoup, parce que finalement, la Révolution française, alors il y a la philosophie des Lumières, moi ça m'évoque la philosophie des Lumières, clairement. Tout de suite, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, parce que je me suis intéressé à Rousseau, et honnêtement, à tous les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, intéressez-vous sérieusement à Jean-Jacques Rousseau, parce que lui, c'est un des penseurs qu'il faut absolument s'intéresser. Je crois qu'il est en confrontation avec Voltaire. En gros, il disait que le progrès, c'est ce qui allait améliorer les hommes. Et Rousseau, il disait non, le progrès, ça ne va pas nous améliorer. Bref, en gros, je fais très simple, mais c'est un peu ce qui différenciait les deux. En sachant que Voltaire, c'était un millionnaire. Ça aussi, il faut le rappeler. Bref, donc la Révolution, moi, ça m'évoque ça. Ça m'évoque la bourgeoisie qui prend, qui supplante la monarchie. Voilà. Et on est dedans aujourd'hui. On est dedans. On est clairement dedans aujourd'hui. Et quand je dis la bourgeoisie, pour moi, ce n'est pas péjoratif dans le sens où il fallait à l'époque que ça se passe, tout simplement. Historiquement parlant, il fallait que ça arrive. Et je crois qu'on est à quoi, 200 ans après, c'est ça? Je ne sais pas, on est à peu près 200 ans plus tard aujourd'hui.
230 ans.
Ouais, 230 ans plus tard, et ben, je pense que là, il va y avoir un autre tournant, une révolution, voilà le terme, une révolte, ça tourne. Et excusez-moi, je maîtrise pas forcément tous les termes.
Il y en a régulièrement des révolutions en France. Il y en a eu en 68, il y en a eu en 1936, en 1871 à la Commune de Paris,
oui,
en 1848.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Et en 1836 ou 1830.
Mais moi, alors,
donc c'est quand même cyclique en effet.
Ce que j'appelle une révolution, vraiment, parce que ce que tu parles pour moi, ouais, c'est des communes, c'est des mouvements, ça a duré un temps. Une révolution pour moi, c'est quand tu changes carrément de système. Le système qui gère un peuple change. Pour moi, il y a eu la Révolution française.
D'accord.
Pour moi, il n'y a pas eu d'autres révolutions. Les autres, c'est peut-être des balbutiements, des choses, mais pour l'instant, on est toujours sur le même. On est toujours sur la 5e République. Après, 6e République, machin, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, il faut que le système change pour la simple et bonne raison qu'après, que tu sois dans la politique, que tu t'y intéresses ou tu t'y intéresses pas, la seule chose qu'on peut voir, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à ce que je vois sur le terrain, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, entre guillemets, dits pauvres, et il paraît que les super riches augmentent. Bon, après, je ne sais pas trop là-dedans, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que je vois quand même un peu plus de pauvreté. Et je le vois concrètement sur le terrain, parce que moi, ce qui m'intéresse, ce que je n'ai pas dit, c'est que je ne lis pas les journaux et je ne regarde pas la télé, je n'ai pas la télé. Ça peut choquer certaines personnes, parce que je ne sais pas du tout ce qui se passe vraiment en France. En revanche, il y a Internet, donc des fois, il y a des clashs, machin, que je vois, je découvre. Là, par
t'écoutes
exemple,
un peu la radio aussi?
Non, du tout. Alors c'est ça, alors c'est le gros paradoxe en plus, tu vois, pour quelqu'un qui monte la radio, non, en fait, j'ai coupé toute source d'information pour une raison qui est tout simple, c'est qu'en fait, je suis quelqu'un de, je suis quelqu'un d'assez sensible, et quand je dis sensible, c'est réellement, c'est pas pour faire le mec, c'est-à-dire que quand je vois à la télé des morts, des attentats ou des injustices, machin, ça me, je suis pas bien,
ouais, mais
donc du coup, j'ai tout coupé.
Tu loupes un tas de choses, Joe, ça veut dire que tu ne vis plus dans la peur en permanence.
Ouais, c'est je suis heureux.
Et il n'est pas complètement coupé, puisqu'il y a quand même Internet. Comme tu disais, tu restes connecté quand même, mais tu choisis ce que tu décides, d'aller voir.
Plus ou moins. Mais après, t'as aussi, comme j'ai un commerce, j'ai aussi ça colporte aussi les informations. Les gens t'envoient des SMS maintenant. Ah, machin qui est décédé, ah, t'as vu, il y a eu ça. Mais moi, honnêtement, je ne m'intéresse pas. Là, il y a un truc, par exemple, l'affaire Trump. Je rigole parce que je n'ai pas peur de le dire. Je trouve que ce président est extraordinaire. Mais vraiment, je le dis, ça peut choquer des gens. Le gars, j'adore son style. Je le dis honnêtement, j'aime son style. Après, sa politique, son machin, me posez pas de questions. J'en sais rien, je m'en fous. Clairement. Par contre, il y a une chose que je sais, c'est que les États-Unis d'Amérique, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, c'est pas un pays. C'est des fédérations de capitalistes. Voilà. Et les capitalistes, c'est les gens qui font de l'oseille et qui pensent qu'à ça. Pour moi, le problème aujourd'hui, c'est l'argent. Après, bon, on pourra en débattre. Mais voilà. Donc pourquoi je parlais de l'affaire Trump? Parce que oui, il faut qu'il dégage, le bonhomme. Mais j'ai appris qu'apparemment, il avait été fermé de tout l'Internet et tout ça. On parlait de démocratie tout à l'heure, ou peut-être, devrais-je dire, de liberté d'expression.
Twitter lui a coupé
moi,
son compte.
Moi, honnêtement. Je m'en fous, attention, je suis pas partisan de ce gars-là, je dis j'aime bien parce que j'aime bien sa gueule, j'aime bien la façon dont il fout des doigts d'honneur à tout le monde, tu vois. Ouais, ça, voilà, c'est le côté un peu quepon, allez vous faire foutre, tu vois, moi j'aime bien ça. Mais bon, après, c'est clair que le mec, il est pas terrible, on va être clair. Mais Obama, pareil, hein. Pour moi, Obama, c'est la même. Hein. Il avait juste de la classe, mais pareil, le gars, on a vu le sang qu'il a fait couler sur la planète, c'est du moins. Je parle des guerres. Après, oui, socialement, il a fait des choses pour son pays. Mais bon, moi, j'ai des liens avec l'Afrique. Donc voilà, je suis aussi sensible aussi à d'autres choses, quoi. Donc j'essaie de ne pas me faire polluer trop par les infos, par les jeux, par tous ces trucs-là.
Eh bien écoute, on va essayer de pallier cette lacune. Et on va laisser la place maintenant à Léa pour les actualités citoyennes qui ne se veulent ni exhaustives ni objectives.
Actualité chaude, bouillante, on va parler du coronavirus encore et toujours. Et si on s'aérait un peu les idées sur le sujet ? Ça fait des décennies, et même plus, que nous savons très bien que le moyen le plus efficace et le plus accessible pour lutter contre les microbes aérosols, donc en suspension dans l'air, c'est l'aération. Les médecins le disent tous, ils sont tous d'accord. Chez soi, si on veut éviter une trop grande concentration de microbes, il faut aérer abondamment, même et surtout en plein hiver. Patatras ! Dans son numéro de janvier 2021, le magazine Science et Vie publie un encart à la page 50 dans lequel il est expliqué que selon les calculs de Bruno Andréotti et de son équipe de l'Université Paris Diderot, une bonne ventilation permettrait de diviser le taux d'infection par 5 contre un facteur 3 pour l'usage des masques. Permettez-moi de gager que ce calcul prend en considération un port du masque selon les précautions d'usage que, soyons francs, personne ou presque ne respecte, parce que 4 heures d'utilisation maximum, nettoyage des mains avant chaque manipulation, lavage à 60 degrés précisément, et pour ceux en tissu, utilisation limitée à 30 ou 40 fois, ça c'est un peu à nous de choisir. Franchement, ça fait beaucoup de contraintes, tout ça. Alors, passons sur le premier confinement, et admettons qu'il était difficile de prévoir ce qui allait se passer, bien que plusieurs scientifiques ont tenté d'informer la société et ses politiques depuis au moins 10 ans sur les risques liés au coronavirus. Mais tout de suite après ce premier confinement, donc dès le mois de mai 2020, n'aurait-il pas été possible, voire logique, alors je sais, ça paraît un peu impertinent, sinon complotiste, ou révélateur d'un non-pessimisme dispositionnel, comme disent certains, et oui, n'aurait-il pas été possible, voire logique, de débloquer des fonds pour faire installer dans toutes les administrations publiques des systèmes de ventilation efficaces et calculer précisément pour renouveler chaque mètre cube d'air toutes les 10 minutes, valeur non contractuelle à affiner bien évidemment, vous l'aurez compris, puis en parallèle, de proposer des subventions aux petits commerçants des zones géographiques les plus touchées pour qu'ils fassent de même ? Cela aurait-il coûté beaucoup plus cher que de verser des aides en compensation des fermetures des commerces considérées comme n'étant pas de première nécessité ? Eh ben, ce serait bien évidemment à calculer. Et ce calcul est important parce qu'on le sait, le gouvernement est près de ses sous et souhaite, entre autres, tenez-vous bien, économiser 900 millions d'euros sur le budget de l'hôpital public cette année, en 2021, selon le journal Marianne. Ah, mais non. Ben non, il était tellement plus simple de restreindre nos libertés fondamentales en décrétant la fermeture de nombreux commerces, en nous interdisant de sortir à certaines heures et en nous demandant de porter un masque en permanence. Alors, de mon point de vue, il me semble que tout ça est révélateur d'un phénomène de déresponsabilisation qui gangrène de plus en plus notre société, parce qu'en obligeant au port du masque absolument partout, en dehors de notre lieu d'habitation et en confinant très largement, les politiques se protègent et peuvent ainsi affirmer qu'ils ont fait tout leur possible pour combattre ce virus et que si l'épidémie continue, eh bien, ce n'est surtout pas de leur faute. En bref, ils se déresponsabilisent face aux conséquences de cette crise sanitaire et ils le font évidemment en violant les libertés de leurs citoyens. Une philosophe, Julia Christ, explique dans le magazine Télérama du 13 janvier dernier que, je cite, « Écoutez bien, la sécurité qui restreint les libertés survient parce que la sécurité qui produit la liberté a été démantelée. » C'est une phrase très forte et elle entend par « sécurité qui produit les libertés » notre système de santé publique, censé nous protéger toutes et tous et nous permettre de vivre dignement même en cas de pandémie, en mettant en place une sécurité sociétale, une sécurité sociale, et cette sécurité qui produit les libertés, ça passe aussi par l'éducation, qui a failli depuis plusieurs décennies, puisque de plus en plus nous acceptons des lois liberticides pour lutter contre le terrorisme notamment, et puis maintenant contre l'épidémie de coronavirus. À son tour, Pascal Horry, un historien, nous met en garde dans ce même dossier proposé par Télérama, car il dit que, je cite, « dans la définition de la démocratie, la souveraineté populaire est suffisante. La liberté, elle, n'est pas nécessaire. » Dit comme ça, ça fait peur. Alors, nous dirigerions-nous vers une démocratie totalitaire dans laquelle l'instrumentalisation de la peur, encore une fois, du terrorisme, d'une pandémie ou autre, permettrait à l'État de mettre en place une sécurité qui restreint les libertés aux dépens d'une sécurité qui produit ces mêmes libertés? Eh bien, cette probabilité fait froid dans le dos.
Alors, on va essayer de se réchauffer un petit peu avec notre invité, avec Joe. Bah c'est marrant parce que, justement, au début d'émission, tu t'es revenu un petit peu sur la définition de la démocratie. En tout cas, tu nous as dit que tu t'en méfiais. Et là, bah oui, nous avons Pascal Horry, cet historien, qui précise « Attention, dans la définition de la démocratie, la souveraineté populaire est suffisante, mais la liberté n'est pas nécessaire. » Du coup, ça t'évoque quoi par rapport à cette méfiance que tu avais déjà avant l'intervention de Léa sur la définition, sur la notion de démocratie?
Je crois que c'est Rousseau qui disait dans un de ses bouquins que ce fameux contrat social, où en fait les hommes, pour pouvoir survivre, se réunissent. Donc ça crée le village, machin, et bref. Ils se réunissent pour pouvoir assurer leur sécurité, d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand vous vivez dans un petit village, une petite maison à tel endroit, bon, à l'époque, vous pouvez vous faire trucider pour le lait, pour une vache ou n'importe quoi, alors que quand les gens se réunissaient tous ensemble, bah, ça les sécurisait en fait. Ça créait des polices, des machins, toute une structuration. Et qui disait qu'en fait, que pour pouvoir vivre ensemble, il faut renoncer à cette liberté d'aller vivre ailleurs. Bref, c'est ce qu'il y a dans le contrat social. Alors, je l'explique peut-être mal, quoi qu'est-ce, mais moi, c'est ça que ça m'évoque. C'est-à-dire que déjà, le fait de vivre... Tu parlais tout à l'heure de société. Léa, à un moment donné, tu as dit ça, je ne sais plus si c'est toi, Thierry. Et moi, par rapport à mes débats, en fait, justement, je vous conseille de lire un des philosophes allemands. En fait, en Allemagne, ils ont fait leur révolution industrielle, je crois, après... Je crois que ça a duré, je crois, 40 ou 50 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont vu l'époque, voilà, quand ils étaient jeunes, et 40 ans plus tard, ils ont vu un autre monde. Et la sociologie est née comme ça, avec Durkheim, Ferdinand Tönnies et Hans Zimmel. Et je vous conseille de lire le bouquin de Ferdinand Tönnies qui s'appelle « Communauté et société », où il explique ce que c'est justement une société, la définition même d'une société et la définition d'une communauté en opposition, si on peut dire ça comme ça. Après, il y a une dialectique. Mais l'idée, c'est que en communauté, les gens vivent tous les uns avec les autres, ils se connaissent tous, ce qui ne veut pas dire que c'est idyllique, hein. Il y a des histoires, il y a des embrouilles, et tout est partagé. Et les échanges, parce qu'en fait, ce qui fait lien avec les individus, c'est les échanges. Voilà. Ne serait-ce que parler, acheter, machin, c'est ça qui nous fait des liens entre individus. Alors que dans une société, tout le monde vit ensemble tout en étant séparé. Donc souvent, on a l'habitude de dire « ouais, cette société individualiste, tout le monde pense qu'à sa gueule, le narcissisme ». Mais oui, mais c'est dans l'essence même de la société. Voilà. Tout à l'heure, quand je parlais de les mots, juste aller chercher la définition des mots, et pour ceux qui s'intéressent, qui vont creuser plus loin, comme moi, eh ben voilà, souvent on emploie des termes, mais souvent on ne sait pas trop la définition. Après, c'est ce que moi j'ai lu dans des bouquins. Hein. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui vont lire des bouquins, qui vont leur dire autre chose, mais ben, voilà. Moi, c'est ce qui me vient tout de suite. Et pour moi, la société, attention, je ne suis pas en train de dire que oui, il faut que la communauté revienne, tout ça. Non, c'est une dialectique, donc c'est un jeu entre les deux, quoi. Et l'idée, et je reviens avec cette idée des débats et des actions que j'essaie de mettre dans le quartier, c'est de recréer des espaces communautaires, des petites bulles communautaires, d'où le troc, d'où le débat, d'où la radio, d'où voilà, des petites bulles où on peut avoir des liens sans être intéressé, des liens intéressés avec l'échange où ouais, je vais traîner avec machin parce que derrière il connaît machin. Qui... Bref, juste on se rend compte pour faire des choses sans rien attendre de l'autre, quoi, juste de l'échange. Voilà, moi c'est ça que ça. Voilà, c'est ce que ça m'évoque.
Et donc, justement, tu as évoqué Radio Barbès à travers ce projet. Encore une fois, ben voilà, tu essayes de contribuer à la communauté du village du 18e arrondissement. Est-ce qu'il y a une histoire de Radio Barbès? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la naissance de cette idée, la naissance du projet?
Alors, lors d'un débat, Pascal, alors j'ai oublié, je crois que c'est Démonière, je crois, qui est la présidente de l'association Zérographe rue Cavé.
Pascal Desmazières.
Desmazières. Et elle avait assisté à un des débats et puis elle m'a dit « Ah mais il faudrait que je te présente quelqu'un, il a une radio et tout, ça fait 9 ans qu'il a sa radio. Ah ouais, il a une radio dans le quartier, moi j'étais pas au courant et tout. » Puis elle me présente cette personne qui s'appelle Néo. On va donner son nom de... son avatar. Et donc Néo, donc je rencontre ce monsieur qui effectivement fait monter une radio. Et cette radio s'appelait Zolkin, Z-O-L-K-I-N. Une radio où on parlait un peu, je ne sais pas si vous connaissez les radios comme Ici et Maintenant, ou comment ça s'appelle bref, des radios qui parlent un peu des trucs un peu soit ésotériques, soit spirituels, soit bon, bref. Des radios un peu comme ça. Bon, il n'y avait pas que ça, il y avait de la politique aussi dedans, il y avait des choses, même des dossiers certains. Oui.
Ici et Maintenant, ce n'était pas diffusé sur la même fréquence que Radio Courtoisie, je crois, non?
Ah, je sais. Il y avait pas peut-être, peut-être, ouais, peut-être, mais je sais
ou
plus.
Alors peut-être que je confonds avec autre chose. Bref,
je sais plus. Je sais plus vraiment. Et bref. Et donc du coup, je rencontre ce monsieur et puis on discute et puis il a vu ce que j'avais fait au débat et il a fait ouais, c'est bien ce que tu fais. Hein. Bon, on pourrait faire. À la base, en fait, je devais travailler avec lui sur la radio et de fil en aiguille, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de créer une autre radio. Voilà. Et on a créé Radio Barbès. Et Radio Barbès, pourquoi? Parce qu'en fait, la radio là où habitait ce monsieur, c'est la radio, c'était chez lui, chez Néo. Et en fait, il y avait une radio, il faisait déjà sa radio, et en fait, de là où on était chez lui, on n'était pas très loin du métro Barbès. Et donc, de sa fenêtre, on voyait la rail du métro Barbès, et c'est pour ça qu'on appelait la radio Barbès. Donc voilà comment est née cette radio, et l'idée de cette radio, c'était, vu que sur la radio qu'il avait, Néo Zolkin, c'était une radio qui parlait de trucs politiques, ésotériques, des trucs qui n'avaient pas vraiment un lien avec le quartier, et comme moi, je faisais des actions dans le quartier, ben, on s'est dit, ben, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse une radio qui soit implantée dans le quartier, quoi. On aille rencontrer les gens, voir un peu ce qui s'y passe, voilà, libérer la parole. On a fait des émissions à l'époque, parce que Radio Barbès, elle est née quand même il y a... En fait, elle est née en 2015, cette radio. Elle est née en 2015. Et donc on a pu faire pendant 6 mois, on a fait des émissions et en fait je faisais des interviews à l'époque d'habitants du quartier, des gens qui géraient les jardins partagés. J'ai fait des interviews, on a fait des interviews des législatives, on avait interviewé Yann Brossa, Caroline Dehas, Francis Sando, bref, de quelques parties comme ça, 5-6 personnes, 5-6 personnes. On avait fait des interviews, des législatives qui étaient pas mal du tout. Malheureusement, on n'en a pu récupérer que 2. On a perdu toutes les autres. Ça, c'est dommage parce que c'était des belles archives, ça. Et ensuite, 2015 et je crois 2016, on a arrêté la radio pour plusieurs pour divergences. Et surtout que j'avais eu un local pour ouvrir le magasin. J'avais pu accéder à avoir un local pour ouvrir la boutique sous la Bleutade d'aujourd'hui. Donc du coup, je fais une pause. On a fait une pause qui a duré 3 ans et on a réactivé la radio l'année dernière. Voilà.
Et justement, l'année dernière, ça tombait bien parce que tu as interviewé pas mal de candidats
Oui, on a fait les municipales, ouais. On a fait les municipales et... Bon, avant tout, on a lancé la radio Barbès, c'est quand même une chose assez importante. C'est une radio quand même qui a pour vocation de donner la parole aux habitants du quartier, à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je dis bien tout le monde. C'est pas tout le monde pour faire tout le monde est beau et gentil. C'est-à-dire que même s'il y a des gens, on n'est pas d'accord avec leurs idées, quel que soit le parti, c'est pas ça, ils ont la parole.
Ça veut dire que je peux pas couper au montage ce que tu as dit sur Trump?
Ouais, que j'aime bien le bonhomme, le style, mais après, le politique, c'est autre chose. Voilà. Tu sais, il y en a certains qui aiment bien Darth Vader, ils aiment bien les méchants. Il y en a certains, après, moi, quand je dis j'aime, il m'a fait rire, quoi. Je trouvais que le personnage, le gars, il a fait son taf, il a fait son show. Pour moi, la politique aussi, il y a un truc, il y a une dérive. Je me rappelle quand j'étais gamin, on voyait des films américains avec Schwarzenegger, je crois que c'était Running Man. Ça m'avait choqué ce film parce qu'il y avait un truc avec la télévision, la télé-réalité, mec qui courait. C'est un film qui m'avait marqué.
Ouais, moi aussi.
Et quand la politique est arrivée, le show là qu'ils ont commencé à nous faire, il y a peut-être à l'époque, je crois que c'est après Sarkozy, quelque chose comme ça, j'ai fait ça y est, on y est arrivé. Alors les Américains étaient déjà là-dedans depuis longtemps. Et arrive Trump. Et Trump, pour moi, c'est vraiment la quintessence de la politique spectacle, le show. Et on a la même en France avec des mecs comme Zemmour, avec des, on les appelle comment, des éditorialistes, ou je sais plus comment on appelle les, bref, il y a des tribuns, des tribuns. On voit arriver des tribuns à la télé, mais des. Et puis moi, ce qui me fait halluciner, c'est que les gens regardent, D'accord. Alors qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Alors bon, d'accord, vous aimez pas Trump, ok, très bien, mais déjà, pourquoi vous vous intéressez à lui? Déjà, c'est la première chose. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, je l'ignore. Je crois que la pire chose qu'on peut faire à quelqu'un, c'est bien de l'ignorer. Quand j'entends des gens, ouais, t'as vu. Non, j'ai pas vu, j'ai pas la télé, j'ai pas la radio, j'écoute pas, justement, je veux pas voir. Mais bon.
C'est une forme de voyeurisme.
Puis, moi, honnêtement, je pense que, en fait, on a un gros fléau, notre génération à nous, c'est qu'en fait, on est ignorant. On nous a, je pense que c'est l'école. Après, je ne sais pas si celle de la génération d'avant était plus intelligente, mais on est ignorant sur des, pour moi, des choses fondamentales. Tu vois, on avait des cours d'éducation civique, droit civique. Bon, il n'y a plus rien qui me reste aujourd'hui, honnêtement. Mais moi, il y a un truc qui m'avait choqué. J'ai été pion dans un collège il y a quelques années. Et je me rappelle, il y avait des gamins, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Ils allaient faire la différence entre être de gauche ou de droite. Ça m'avait marqué. Mais alors,
ils étaient ambidextres.
Mais alors, le truc qui est marrant, c'est qu'il y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 ou 3 ans, j'ai été invité chez des potes et tout. On a tous la quarantaine. Et pareil, à un moment donné, il y en a un qui dit « Ouais, mais ça veut dire quoi être de gauche ?» Tu sais, quand tu as 44 ans, 45 ans, et la personne qui était à côté, pareil, elle ne savait pas gauche-droite, pas faire la différence.
C'était pas de l'humour ?
Et c'est là qui m'a... Non, c'était pas de l'humour. Et c'est là que ça m'a fait... Non, parce qu'il a fallu que j'explique à ma façon et encore moi, je ne sais pas, hein, bref. Mais le truc qui m'a fait marquer, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de gens qui ne savent pas faire la nuance entre la gauche et la droite.
Bah, faut dire
énormément de gens.
Il faut dire aussi que nos politiques, depuis 15 ans, brouillent bien la frontière, hein,
ouais,
entre la gauche et la droite.
Ouais, peut-être, mais c'est... Moi, en tout cas, c'est un truc qui me marque. C'est que déjà, si tu veux commencer à t'activer, à comprendre, du moins, voilà, avoir une conscience de citoyen, entre guillemets, il faut déjà quand même avoir certaines bases. Et je me rends compte que beaucoup de gens ne les ont pas. Et quand je dis beaucoup de gens, je ne parle pas des pauvres, machin. Je dis aussi des gens qui sont bien aisés, qui gagnent très bien leur vie, famille, enfants, qui vont, bref, qui ont de la culture, entre guillemets. La culture ne veut pas dire. Avoir de la culture, ça ne veut pas dire avoir de l'intelligence. Hein. Ça, c'est un truc aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont. Il y a un amalgame qui s'est fait. Je pense que c'est l'école qui a fait ça. Que, parce que tu es le premier de la classe, tu es intelligent. Non. Le dernier de la classe peut être bien plus intelligent que le premier. Après, ça dépend de ce que tu appelles l'intelligence. Après, bon, c'est des débats. C'est des débats.
On a discuté avec une amie dernièrement, ouais, qui avait pas mal formulé ça, justement, qui avait dit... Oh, mince, si ça se trouve, je n'ai même pas retrouvé correctement sa phrase. Elle nous a dit que être diplômé, ça n'est pas pareil qu'être cultivé. Ça n'est pas la même chose. Et ce n'est pas parce que tu es diplômé, ce n'est pas parce que tu es instruit que tu es forcément cultivé. Et j'ai trouvé que c'était joliment formulé, parce qu'en effet, tu, comme tu le dis toi-même, tu es autodidacte, mais tu es ouvert à tout, curieux de tout. Et tu peux tomber sur des personnes hautement diplômées qui ne seront pas ouvertes à toutes les idées, qui ne seront pas curieuses de tout. Et c'est là qu'en effet, on atteint peut-être la limite de l'instruction.
On le voit avec nos gouvernants.
qui sont tous très instruits.
Pardon, hein,
oui, mais moi je pense qu'ils sont bien formés. Voilà, ils sont très bien formés pour la fonction qu'on leur demande. Après, c'est pareil pour un boulanger, c'est pareil pour un mécanicien. Genre dans la vie de tous les jours, moi, avec un pote qui commence à virer un peu extrême gauche, du moins extrême gauche, genre ambiance, ouais, on va tout péter, machin. Je lui dis, mais moi, je fais pas la différence entre un CRS et un gars qui vient nettoyer après, par exemple, il y a une manif, machin, ça a foutu le bordel. Il y a un mec, tu sais, il y a des gars de la voirie qui viennent et qui nettoient le truc, tu vois. Pour moi, je les mets dans le même sac. Le CRS et le mec qui vient nettoyer le bordel que t'as foutu là dans la nuit pour que le lendemain, tout le monde puisse, tu vois, que ce soit tout propre, comme si rien ne s'était passé. Je dis, voilà, on a tous une fonction. C'est là, je veux dire, c'est on a tous une fonction. Et cette fonction, bah, va dans le sens des gens qui sont au pouvoir. Bon, après, c'est peut-être pas un exemple assez concret, ce que je dis, mais voilà, c'est en fait, on est tous, voilà, on est tous formatés, on a tous été à l'école, on a une fonction, on est spécialiste là-dedans, il y en a qui c'est dans les banques, il y en a qui c'est dans les assurances, il y en a qui vendent des chaussures, il y en a, voilà, on a tous une fonction, tu vois, on a tous une fonction sociale.
Chacun est un rouage de la machine, voilà, de la grosse
c'est
machine.
C'est ça, tu le dis bien.
Et alors, qu'est-ce que tu conseilles de faire pour se déformater ?
Oula, moi honnêtement, je conseille rien du tout.
Allez,
attention,
ose.
Moi j'ai pas le. J'ai, attention, depuis tout à l'heure, je parle. Bah, peut-être certaines personnes qui vont se dire ouais, mais lui, bon, bref. Attention, on est tous le compte quelqu'un. Hein. Pour certaines personnes, je suis un imbécile fini. Hein. Donc, je suis pas là, je vais pas dire aux gens ce qu'il faut faire.
Et pour nous, tu es un super citoyen.
Oui, super citoyen. Bah, merci. C'est lourd à porter, ça. Mais moi, je suis quelqu'un tout simplement qui s'investit dans la vie de la cité. Voilà. Je parlais de définition, j'avais cherché dans le mot politique. Qu'est-ce que la politique ? Quand tu vas chercher la définition première, c'est une personne qui s'investit dans la vie de la cité.
Tout à fait.
C'est ça la définition, mais c'est, C'est... mais c'est tout bête. Donc n'importe qui fait de la politique. Les gens disent, ouais, mais moi je fais pas de politique. Non, bah, j'ai envie de te dire, avec le fait de te lever le matin et d'aller bosser, tu fais de la politique. Juste ça. Voilà, c'est, cherche même pas, va pas plus loin. Donc voilà, moi ce que je conseillerais aux gens, voilà, tu me posais la question, qu'est-ce que je conseillerais? Tout simplement lisez, si vous pouvez lire. Alors c'est bien les vidéos sur internet, parce que je regarde beaucoup sur internet, mais ce qui est important, c'est qu'il faut aussi complémenter, soit avec plusieurs avis différents, mais aussi lire les bouquins. C'est important de lire. Et si vous pouvez vous réunir avec d'autres personnes pour parler de certains bouquins, voilà, moi je pense que lire, parce que lire pour moi, c'est se tenir debout. Parce que tout à l'heure, je disais, je regarde pas les infos, je lis pas les journaux, bref, tout ça. Mais en revanche, je lis beaucoup. Attention, parce qu'on me dit, ouais, mais tu t'intéresses pas, machin. Attention, je lis beaucoup parce que j'essaie de comprendre dans quoi, pourquoi on est arrivé là aujourd'hui. Il y a une raison. Et donc, il y a plein de bouquins, il y a plein de gars, il y a plein de penseurs, des philosophes. Des... Ben là, j'ai un bouquin de Polanyi à côté qui s'appelle La Grande Transformation, où justement, le mec, il est juif hongrois. Et... il voit arriver le nazisme et tout ça, et puis il cherche à comprendre comment on en est arrivé là. Et il écrit un bouquin. Bon voilà, moi je m'intéresse plutôt à ça, les racines qui font qu'on est arrivé là. Donc du coup, tu découvres plein de penseurs, tu vas dans la philosophie, c'est impératif. On philosophe tous les jours sans le savoir. Tout le monde philosophe tous les jours sans le savoir. Intéressez-vous à la philosophie. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous tapez philosophie, Spinoza, Platon, machin. Allez-y. Apprenez, comment dire, le mythe de la caverne. Apprenez, allez voir. Hein. Il y a des vidéos très simples, même pour des enfants de 10 ans. Je vous assure, moi, j'ai commencé par là. Hein. Je regarde les trucs faits pour les scolaires, et puis après, tu vas sur les profs de fac. Là, c'est bon. Enfin, ça, c'est un autre niveau, comme dirait. Donc voilà. Voilà, il y a beaucoup de divertissement, mais moi, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment lire, parce qu'il y a des gens avant nous qui se sont battus. Là, j'ai appris il n'y a pas longtemps que, en fait, tout le système qu'on a là aujourd'hui, on a des aides, bref, la France, c'est un super pays, il est dû au fait que le Parti communiste, alors je ne suis pas communiste, hein, même si je m'intéresse à Marx, le Parti communiste, c'est grâce à lui, d'une certaine façon, qu'on a aussi ce système français d'aujourd'hui. Que beaucoup vomissent, mais voilà, c'est un côté, les mecs ils voulaient se battre, qu'il y ait un peu plus d'égalité, qu'on soit moins exploité, tout ça, ben voilà, aujourd'hui on en bénéficie. Et franchement, honnêtement, quand tu vois ce qui se passe ailleurs, voilà, tu te dis, ouais, la France c'est un super pays, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui le critiquent, mais honnêtement, il paraît qu'il y a même des Américains qui disent que franchement, bon, ils vont arriver Macron, libéralisme, bon, et ça a déjà commencé sous Giscard, mais tout ce qui va avec. Et les mecs ils disent, mais c'est con, mais votre pays, la France, il est quand même unique, il est en train de se faire dépecer, il va devenir comme nous, quoi. Les Américains eux-mêmes le disent, donc voilà, c'est... Lisez, informez-vous, et si vous pouvez... alors, lire, c'est... Attention, quand je dis lire, il y a deux types de lecture, il y a la lecture vraie et la lecture fausse. Eh oui, c'est dur.
Éclaire-nous là-dessus.
Alors, les lectures vraies, la lecture fausse, c'est qu'il y a, pour moi, il y a des lectures, voilà, il y a des bouquins qui vont dans le sens du système, dans l'idéologie du système, qui est l'idéologie libérale. Donc, il y a plein de bouquins qui vont défendre ça, ou des journaux qui sont affiliés qui vont défendre ça. À la télé, bah, ça défend à gogo ce système. Et il y a d'autres bouquins qui, justement, disent bon, voilà, il y a déjà des gars qui ont déjà lancé des alertes dans des livres. Hein, dans des livres, je parle de livres qui ont été écrits il y a deux siècles, hein, 150 ans, 300 ans. Et les mecs, ils t'expliquent des trucs qu'aujourd'hui, c'est hyper vivace. Donc voilà, moi, je m'informe pas, mais en revanche, je lis énormément. Mais je m'intéresse quand même beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui, mais non, je regarde ce que je vois voilà, devant moi, concrètement. Je regarde pas les journaux, la télé, les infos, ça m'intéresse pas. Il y a un truc que j'aime bien, c'est regarder les pubs. Qui sont affichés, les pubs de bus, tu vois, sur les affiches de bus, quelle pub on envoie, quel est le message de la semaine. Là, en ce moment, c'est sur l'armée. Tu sais, à peu près tous les 2-3 mois, ils te font un truc sur l'armée, ils te mettent, voilà, agir ou je sais plus quoi, il faut agir, et puis en dessous, il y a marqué 15 000 places, tu sais. Donc voilà. Et donc des fois, tu as des pubs sur, ouais, bon, voilà, des bières, des. Bon, bref, c'est toujours. À chaque fois, c'est le même style de pub, à chaque fois. Voilà, c'est des choses comme ça, et puis je regarde surtout comment les gens s'habillent, ça aussi, c'est intéressant, de voir les modes, les tendances. J'adore les masques. Alors on est sous masque, sous Covid. Mais pourquoi je dis j'adore les masques? C'est pas les masques que j'adore, c'est pas vrai, mais c'est les regards. Parce que du coup on voit les regards maintenant. J'adore ça. Regardez les regards. Je kiffe. Bref. Bon voilà. Tout ça pour dire que malgré la société de fous dans laquelle on est, honnêtement, je trouve des petites choses. Voilà, on se raccroche sur des petites choses toutes simples. Hein. Moi, regarder un pigeon se désaltérer sur le caniveau au bord du truc, des fois, je suis en contemplation. Ça m'arrive des fois, tu vois, un rayon de soleil le matin. Tiens, ce matin, le soleil, il est fou, il est fort. Waouh ! Tu t'arrêtes quelques secondes, tu te mets face au soleil. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Regardez les oiseaux. Voilà, un petit sourire, aider une dame. C'est des petites choses comme ça qui font que tes journées sont bonnes.
Un petit sourire, explique-moi. Tu viens de nous dire que les masques te permettaient de mieux voir les regards, mais tu ne peux plus voir les sourires.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Parce que je pense à l'époque où on était avant les masques, parce que c'est ce que je fais souvent. Il y a un truc que j'aime bien faire aussi, c'est quand je vois les petits sur les poussettes, je leur tire la langue. Après, le petit fait « Maman, regarde le monsieur !» Et moi, je ouais, ça va. »
Et là, tu remets ton masque.
Voilà, c'est vrai.
Je retiens une phrase que j'ai trouvée très très belle, Joe. « Lire, c'est se tenir debout. »
Ouais, elle est pas de moi. Hein. Alors attention, c'est un truc que j'ai écouté, alors, je sais plus si c'est dans un bouquin ou un truc que j'ai... Parce que j'ai des petits carnets où je prends plein de notes aussi. Je note plein de petites choses. Moi, je le fais plus maintenant, mais j'ai quelques carnets que j'aime bien des fois de temps en temps réviser. Mais je sais plus c'est de qui, d'ailleurs. Ouais, je retrouve.
Dommage. Eh ben, on va faire semblant qu'elle est de toi, cette phrase, parce qu'elle est belle. Est-ce que tu as envie de passer un message, puisqu'on est sur Radio Barbès, sur la radio que tu as créée?
Je ne l'ai pas créée. À la base, on l'a créée. On était trois quand même à la base sur le projet, donc Néo et Flox. Donc voilà, on était trois sur le projet. C'est pas ma radio à la base. Voilà, je l'ai récupéré parce que voilà, la vie a fait que bon, maintenant on a un magasin. Moi, le message que j'ai envie d'envoyer, c'est toujours le même, c'est que venez, la radio est ouverte à toutes et à tous, quelles que soient vos idées. Moi, je voudrais bien avoir les féministes, tu sais, c'est celles qui collent les messages là. Et je pense qu'elles sont jeunes, elles doivent avoir en dessous de 25 ans grand max. Ça, ce serait bien de les avoir, genre, ouais, lancer des gens qui parlent de ça, d'autres personnes aussi. Je sais qu'il y a des personnes dans le quartier qui ont des problèmes avec leur syndic, des choses comme ça, des trucs un peu plus brûlants, ça m'intéresse aussi. Des sujets, voilà, venez parler de ce que vous avez envie, ce qui se passe avec les attentats, ou voilà, si vous êtes d'origine maghrébine et musulman, que vous en avez marre, venez parler, discuter. Alors, je rassure, on n'est jamais en direct, donc tout est enregistré. Donc on pourra filtrer, enlever pour pas avoir trop de problèmes, pour rassurer quand même les gens, je suis pas fou non plus. Mais l'idée c'est vraiment ça, il faut qu'on échange, il faut qu'on apprenne à se connaître, chacun et chacune. Ça c'est important parce que dans le quartier en fait, on dit souvent que le quartier de la Goutte d'Or c'est un quartier qui est mixé, c'est pas vrai, c'est un quartier qui est divers. Il y a une grosse différence entre mixé et divers. Comme je disais tout à l'heure au début, allez regarder la définition des mots, c'est impératif aujourd'hui, surtout comment ils sont galvaudés à la télé, on l'utilise. Bref, quand vous allez comprendre le sens des mots, vous allez pouvoir déchiffrer beaucoup de choses, ça c'est important. Pour moi il y a une bataille, ouais. Il y a une bataille qui est importante, c'est celle des mots et des concepts. Et voilà, il suffit juste d'être curieux. Voilà. Il y en a souvent qui disent « Ouais, t'es intellectuel, tu dis maintenant. » Non, je suis juste curieux, j'ai envie de comprendre dans quoi on est, pourquoi on est là, et pas être là à se dire « Ouais, mais de toute façon, ça a toujours été comme ça. » Puis à côté, la personne, elle se drogue, elle boit dans l'alcool ou dans d'autres excès. Quoi. C'est pas juste les drogues, il y a chacun a son délire. Et puis ça développe aussi des tendances un peu bizarres, des relations un peu... Je parlais de relations fausses, il y a des gens quand même, et ils développent des trucs un peu bizarres quand même. Moi, j'appelle ça bizarre, mais en fait, c'est pas grave non plus, mais voilà, c'est des intérêts. Voilà. Moi, ça me fatigue un peu toujours, ces relations avec intérêt derrière. C'est bref.
Donc, auditeur, auditrice, si tu es motivé, si tu es curieux, curieuse, n'hésite pas à venir dans la boutique sous la Blotta, au 47 rue Marcadet, pour taper la discute avec Joe, et pourquoi pas proposer, soumettre des idées pour Radio Barbès.
Venez. Et vraiment, que vous n'ayez jamais fait de radio, que vous en ayez fait tout ça, c'est vraiment un espace ouvert à toutes et à tous. Je le répète, parce que pour moi, ça, c'est impératif. C'est vraiment ça, le truc. Et quelles que soient vos idées, vous venez. Vous allez faire un truc sur la bouffe, allons-y. Un truc sur le féminisme, allons-y. Un truc sur les transgenres, allons-y. Vous voulez faire un truc sur... Après, je suis pas d'accord avec tout, hein, mais ça, c'est pas important pour moi. C'est pas le problème. Voilà, on peut discuter, on peut se rencontrer, on peut voilà échanger. Y a pas de souci. Après, si tu veux être camp sur tes positions, voilà, l'essentiel c'est que on s'est rencontrés. Moi, c'est juste ça qui m'intéresse.
Nous arrivons en fin d'émission, mon cher Joe, et donc il va falloir bientôt rendre l'antenne pour la réclame et la publicité qui est très très présente sur Radio Barbès.
Surtout pas de sponsor sur la radio, alors je tiens quand même à le dire, nous on cherche pas, on veut pas d'argent, voilà c'est simple, moi voilà, s'il y a un mot, pas d'argent, on fait un retour à l'entraide.
On veut de l'échange humain.
Tout à fait.
Eh bien, il y a un mot qui a été fortement galvaudé depuis maintenant bien, bien longtemps, c'est le mot « liberté ». Joe, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de la liberté, pas celle du Larousse en ligne, pas celle du petit Robert, pas celle que tu vas entendre de la bouche d'un philosophe, mais ta
Alors, définition. Ma définition à moi de la liberté, pour moi avant tout, c'est la liberté d'esprit, voilà, la liberté de penser. Pour moi, c'est la base. C'est vraiment ça. C'est que chaque action, elle est pensée. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Tu penses d'abord une action et ensuite tu agis. Mais d'abord, il faut que tu penses. Et moi, c'est ça le plus important, la liberté de penser. C'est fondamental et c'est un truc, quand tu regardes bien, c'est un truc que tu peux pas vraiment agir dessus, même s'il y a des médias, il y a des canaux qui nous aliènent, voilà, qui nous font dériver sur d'autres choses qui sont futiles. Mais la liberté de penser, ça, c'est un truc qu'on peut pas toucher. Et tu vois, c'est con à dire, mais tu disais pas de philosophe, tout ça, mais malheureusement, je vais te sortir un gars qui s'appelle Karl Polanyi, j'en parlais tout à l'heure. La grande transformation, alors lisez tous et toutes ce bouquin, c'est fondamental. C'est un gars qui a essayé de comprendre comment on en est arrivé aux guerres mondiales. Et il parle d'un système libéral, bref, c'est magnifique. Et c'est marrant parce que j'ai commencé à lire hier, et c'est très intéressant dans l'introduction. Alors c'est pas l'introduction, ouais, c'est un petit paragraphe, ouais, c'est 5-6 pages sur Polanyi, j'ai pas voulu lire les 5-6 pages, je vous rassure. Sur Karl Polanyi, et en fait, ça raconte une de ses, je crois que c'est son ex-femme, sa veuve, ou une amie à lui, je ne sais plus vraiment, qui a retrouvé un petit mot qu'elle avait gardé et qu'elle a filé ensuite à l'écrivain qui a écrit le bouquin là-dessus. Et je vais vous lire 4-5 lignes de ce que dit Karl Polanyi, et c'est quelque chose auquel je suis. Allez, je pense comme ça en fait. Alors, quelques secondes, le temps que je retrouve la page.
Je m'en fous, je couperai pas au montage.
Alors, c'est Karl Polanyi qui écrit. Il fut un temps où l'on appelait libres penseurs les sans-dieux, les athées. Nous avons depuis longtemps dépassé ce stade. Chez les athées aussi, on peut trouver quantité de gens étroits d'esprit et sans énergie, avec une mentalité de petits bourgeois qu'on devrait considérer comme tout sauf des libres penseurs. Alors qu'une disposition religieuse peut rendre un homme capable de la révolte spirituelle la plus audacieuse, et parmi ceux qui sont morts pour la cause de la liberté de penser, la première place sera toujours occupée par Jésus de Nazareth. Eh ben moi, tu vois, quand je lis des choses comme ça, c'est bien plus puissant qu'un film, c'est bien plus puissant, alors ça dépend quel film, une musique, on va dire c'est autant c'est aussi fort quoi. Donc voilà par rapport à la liberté.
Eh bien merci beaucoup Joe de nous avoir consacré un petit peu de ton temps.
Merci à vous. Et puis il y a un truc qu'il faut quand même que je dise, c'est que vous êtes quand même Thierry et Léa tous les deux ceux qui proposent des émissions depuis maintenant, ça fait quoi, 5 mois, 6 mois, peut-être un an maintenant que vous faites des émissions.
Ça fait au moins un an. Oui.
Ouais, ça fait un an. Donc oui. Je tenais quand même à vous remercier aussi sincèrement parce que vous êtes là et tous les mois vous m'appelez quasiment, sauf Covid, pour faire des émissions et je tiens vraiment à vous remercier, vraiment.
Eh ben écoute, c'est très gentil parce que de toute manière nous aimons les projets qui tentent de faire communauté, qui tentent de libérer la parole, je reprends tes termes, et qui tentent un petit peu de casser les balises du village. Donc nous sommes, nous, très heureux de participer à cette aventure. Chers auditeurs, chères auditrices, nous allons te laisser vaquer à tes occupations. Et nous espérons que tu as passé un très beau moment avec nous et avec Joe. Et surtout, reste à l'écoute de Radio Barbès.
Allez, hey, 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 oh.